Merci d'abord aux organisateurs de m'avoir invité et d'avoir réservé une plage à Cicéron. Et j'ai découvert avec le plus grand plaisir dans cette salle que je ne connaissais pas, connaissais très mal, cette devise qui finit au-dessus de la porte, « Esquidem veralex rectatio », qui est le début de la définition de la loi dans le troisième livre des Républicains de la République de Cicéron. J'interviendrai à propos de Cicéron tout à fait dans un endroit adéquat. J'ai bien le sentiment d'être un peu marginal, parce que je ne sais pas exactement à quel titre j'interviens. Si on considère les grands philosophes, tout le monde sera prêt à y inclure Platon et Aristote. Je ne suis pas sûr que les philosophes soient disposés à inclure Cicéron dans le corpus des grands philosophes politiques. Alors j'essaierai de montrer quand même qu'il y a des choses à tirer de Cicéron, et je voudrais d'abord, vous avez un plan, d'abord délimiter le corpus que je vais prendre en considération, et ensuite axer mon développement sur deux grands thèmes, me rapprochant des bipartitions juridiques, qui sont le problème du dirigeant et du citoyen, et en particulier du rôle du dirigeant, et qui sont le problème où on retrouve alors là, tout à fait la problématique finale de la communication précédente, de citoyenneté et civisme, qui était le cadre qui avait été proposé pour y inscrire ce texte sur Cicéron. Donc le corpus. Le corpus, ce seront essentiellement les grands dialogues politiques des années 54-51, c'est-à-dire le De Republica, la République, et le De Legibus, les lois. Comme leur nom l'indique très clairement, c'est l'expression, la volonté de donner un pendant en latin aux deux grands traités de Platon, qui sont la Politeia et les Nomos. Deux traités dont la critique philosophique a surtout, depuis le XIXe siècle, souligné qu'ils appartiennent à deux périodes de l'évolution de la pensée de Platon, et a mis l'accent sur l'évolution et donc sur les différences entre la Politeia et les Nomoi, alors que les anciens, et me semble-t-il, avaient tendance à les rapprocher. Et c'est le cas de Cicéron, bien sûr, à les rapprocher davantage qu'à les opposer. Et donc, il n'y a pas de difficulté particulière pour Cicéron de voir dans son De Legibus la continuation directe des Republica. Et chronologiquement, le De Republica est bien daté des années 54 à 51, et le De Legibus a dû être écrit, quoi qu'on ait pu dire, dans les mêmes années, vraisemblablement en restant partiellement inachevé et sans doute en n'étant pas diffusé, j'éviterai le terme de publication, on parlerait plutôt de diffusion, comme l'a été le De Republica. Mais la transmission de ces deux grands dialogues est une transmission partielle. Pour le De Legibus, ça n'apparaît pas très clairement, puisqu'on a trois livres et qu'on a un peu l'impression d'avoir une œuvre complète. C'est faux. Nous savons très clairement, parce que nous avons un extrait, qu'il y avait au moins cinq livres, et donc probablement six livres, comme pour le De Republica, et que la transmission manuscrite n'est qu'une version tronquée de ce qui a été écrit par Cicéron. Et dans le traité sur les lois à l'heure actuelle, il y a un développement général sur les lois, puis un développement sur les magistratures et un autre sur la religion et les magistratures, plutôt dans cet ordre. Et il y avait au moins quelque chose chose sur l'organisation judiciaire et certainement un livre très important sur tout ce qui était la formation des citoyens, la discipline. Pour des républicains, c'est plus évident dans la mesure où le traité a été très longtemps perdu et connu seulement par des fragments transmis par des grammairiens, par exemple, à l'exception de la fin, le songe de Scipion, conservé par une tradition propre et grâce aux commentaires qui en a été fait dans l'Antiquité tardive, en particulier par Macrobe. C'est seulement au début du XIXe siècle qu'a été découvert un palimpseste qui a conservé une partie du traité, mais une partie très inégalement répartie, puisque essentiellement il s'agit de fragments des deux premiers livres, si bien que on a quelque chose de très malaisé. Nous avons des fragments importants des deux premiers livres. Nous avons pour le livre 3, heureusement, les pères de l'Église, Saint-Augustin en particulier, qui nous donne une idée assez précise du contenu du livre 3. Et puis ensuite, très peu de choses des livres 4 et 5, et la fin du livre 6 avec le songe de Scipion. Dans ces conditions, il est d'autant plus important de prendre en considération non seulement les deux traités politiques, mais le premier traité, celui qui précède immédiatement, le De Oratore, qu'on a tendance à considérer comme un traité de rhétorique, mais qui chronologiquement précède immédiatement le De Republica, qui est présenté par Cicéron lui-même dans la préface de son traité sur la divination comme un texte philosophique, et qui est une évocation de l'idéal de l'homme politique sous un autre aspect, qui est celui en effet de la qualité à exprimer son avis devant le Sénat, devant l'Assemblée du peuple et dans les tribunaux, sous un autre aspect que dans les républicains, mais de façon complémentaire. Et puis il faut également remonter à un discours très important, qui est le dernier discours qui précède le dernier discours où Cicéron s'exprime librement et qui précède les grands dialogues, qui est le Procestio prononcé dans l'année 56. Alors là, juste quelques mots pour vous rappeler quelques étapes essentielles. 63, c'est l'année du consulat de Cicéron et c'est l'année où Cicéron, en particulier appuyé par ce qu'on appelle le senatus consulte ultime, c'est-à-dire par un avis du Sénat engageant les consuls à veiller à ce que l'État ne subisse pas de dommages, réprime la conspiration de Catilina et fait mettre à mort sans jugement un certain nombre de sénateurs et un magistrat qui a été auparavant déchu de sa préture. Ensuite, en 58, Claudius, tribun de la plèbe, tirant argument l'action de Cicéron pendant son consulat, le contraint à s'exiler pour éviter de devoir affronter une procédure judiciaire dont il aurait pu être la victime. Retour d'exil qu'il pense triomphal en 57, mais dans un contexte politique qui va l'obliger aussitôt après 56, aussitôt après le Procestio, en fait, à abandonner une partie de sa liberté de parole au profit de ce qu'on appelle abusivement le premier triumvirat, qui n'a pas le caractère officiel du second, mais qui est simplement le fait que trois personnages, César, Pompée et Crassus, réunissent leurs forces pour exercer une très forte pression. Et c'est dans cette période de demi-effacement qu'il écrit ses premiers grands dialogues, le De Oratore, le De Republica et le De Equitis. Et ensuite, la guerre civile commencera en 49. L'essentiel de l'œuvre philosophique de Cicéron est constitué d'œuvres écrites pendant les années de la dictature césarienne, entre les années 46-44. Dans un contexte tout différent, qui est cette fois-ci celui de la nécessité de reconstruire un avenir à moyen terme en établissant les bases lorsque l'occasion pourra se présenter d'une nouvelle stabilité politique, qui n'est pas simplement donc un retrait partiel comme dans les années 50, mais un retrait qui risquait de se prolonger. Et puis il y aura, après l'assassinat de César, la dernière flambée marquée à la fois par les Philippiques, du point de vue de l'action politique, et par le diophikis, dont parlait hier Michel Imbert, pour la réflexion philosophique et politique. Le dernier point des réflexions générales, c'est sur l'objet même des dialogues, et en particulier des républiques. Il y a une lettre particulièrement importante que vous avez au bas de la page 2, une lettre de Cicéron à son frère Quintus, écrite à la fin de l'année 54, où il parle justement, il est dans un moment de réflexion sur le De Republica, et il définit très exactement l'objet. C'est un ouvrage, De Optimo Statu Civitatis et De Optimo Civi. Il y a deux objets, en fait. Les institutions idéales, la constitution idéale, ce qui correspond au titre De Republica et au titre platonicien de Politeia, si vous voulez, mais en même temps, l'optimus civis. L'optimus civis, et il reprend cela à propos d'Aristote, De Republica et De Praestanti Viro, et vous voyez des variantes de vocabulaire. L'optimus civis, le citoyen idéal, c'est en même temps l'homme éminent, le Praestanti Viro. Et du point de vue du grec, l'équivalent, c'est naturellement le politikos. Le politikos, qui est le titre d'un troisième dialogue de Cicéron, qui est le titre d'un dialogue perdu d'Aristote. Et il faut tenir compte également des sous-titres, des deuxièmes titres. La politeia de Platon, c'est politeia épérie du Caïosunès, c'est-à-dire la politique ou sur la justice, c'est indissociablement un dialogue sur la justice et un dialogue sur la politique. Et la plupart des traités intitulés Politikoi sont également, en tout cas après, qualifiés Politikos et Basilikos. Ce sont des traités sur le politique, c'est-à-dire l'homme politique par excellence. Et l'homme politique par excellence est à peu près indissociable du Basilikos aner, de l'homme royal par excellence, dans le cadre d'une réflexion plus générale sur, en fait, sur les lois. C'est-à-dire que ce qu'il y a derrière cela, c'est l'idée que les lois sont naturellement indispensables, mais que les lois fixent un cadre général qui ne peut pas être parfaitement adéquat à toute situation politique éminemment susceptible de changement. Si bien qu'à côté du cadre fixé par les lois, il y a l'intervention de cet homme que les Grecs eux-mêmes voient à la fois, quelques paradoxes ça puisse nous paraître, comme politikos et comme basilikos, c'est-à-dire qui, en vertu justement de sa phronesis en grec, de sa prudentia en latin, est capable de savoir très exactement dans une circonstance donnée quelle est la décision que devra prendre la cité. Alors, deux points sur lesquels je serais d'être bref en mettant l'accent sur les choses. La première, c'est le bon citoyen et le bon dirigeant. Bien évidemment, nous sommes avec Cicéron à la fois dans le prolongement des réflexions de Platon et d'Aristote, qui sont ses maîtres et les maîtres avoués et proclamés, qui ne sont pas les stoïciens, contrairement aux tentatives qu'on a souvent fait de souligner une influence stoïcienne. Alors il y a en effet des textes comme le début de la définition de la loi, où l'influence stoïcienne est marquée, mais fondamentalement la réflexion politique s'inscrit dans une tradition académico-péripatéticienne, avec Platon d'un côté, Aristote et Théophraste de l'autre. L'une des différences fondamentales, en particulier avec Aristote, c'est que pour Aristote, l'idéal politique, ça a été rappelé, la politeia, c'est quand même essentiellement une aristocratie, mais une démocratie, mais une démocratie exempte d'état de la démocratie extrême qu'avait connue Athènes fin du 5e et pendant le 4e siècle, alors que pour Cicéron, c'est la République romaine, et la République romaine est quand même fondamentalement ce que un auteur comme Aristote aurait considéré comme un régime aristocratique et non pas comme un régime démocratique. Et il y a donc une nécessité de tenir compte d'une alternance qui n'est pas exactement la même. En particulier, le rapport entre le fait de commander et d'être commandé. Pour Aristote, dans la conception qu'il a et qui a été rappelée précédemment, ce sont les mêmes qui, dans la politéia, ont la capacité de commander archein et d'être commandé archestai. Avec une alternance qui peut exister par le tirage au sort pour la participation aux activités judiciaires et avec également une alternance dans le fonctionnement même de l'Assemblée et la préparation des assemblées par les organes permanents du pouvoir. Pour Cicéron, le rapport est inévitablement différent dans la mesure où une partie seulement des citoyens a vocation à véritablement imperare et les autres n'ont pas le même degré de participation. Mais cela l'entraîne naturellement au risque d'être dénoncé comme dans le processus en particulier, comme un défenseur des optimates, c'est-à-dire d'une catégorie restreinte. Et il y répond par deux éléments. Le premier, c'est une définition tout à fait exceptionnelle des optimates, qui est d'abord une définition par énumération, en disant les optimates, ce ne sont pas seulement les sénateurs, ce sont les sénateurs, ce sont les chevaliers, ce sont les notables des municipes, et ce sont jusqu'aux affranchis. Naturellement, dire les affranchis font partie des optimates, c'est un paradoxe. Même si les affranchis, comme l'a rappelé Michel Imbert, sont des citoyens, en tout cas les affranchis eux-mêmes, les nouveaux citoyens, ne sont pas encore des optimates. Même avant que Auguste sanctionne différence de façon encore plus notable. Mais il y a cette définition qui est doublée d'une définition par exclusion qui consiste à dire finalement le peuple entier est constitué d'optimates. Si bien que l'opposition entre optimates et populares perd son sens, ceux qui se prétendent partisans du peuple n'ont pas la majorité du peuple derrière eux, et le peuple entier à l'exclusion de deux catégories, et ces deux catégories sont une catégorie à la fois juridique et psychologique, ce sont les furiosi, ce sont ceux qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes et qui, en droit, sont interdits de la moindre action à cause de leur irresponsabilité. Et puis, ce sont ceux que leur dette a rendu finalement également non maîtres d'eux-mêmes, puisque quelqu'un qui est endetté finit par ne plus avoir la capacité d'être lui-même. Et quant l'homme politique idéal, il a en particulier, je n'insiste pas ici, mais il a en particulier cette vertu de prudentia, de phronesis, qui est absolument essentielle et qui lui permet de... Le dernier point sur lequel j'insisterai, c'est celui de la citoyenneté et du civisme. Et là encore, on a une continuité évidente avec Aristote, et on a différence assez marquée due à l'infléchissement que provoque le passage d'un idéal démocratique modéré à un idéal aristocratique modéré, c'est juste oligarchique modéré. L'activité politique est un impératif. Et il y a dans tous ces textes, aussi bien dans le Processio jusqu'au grand dialogue politique, une polémique qui est une polémique contre tous ceux qui répugnent à l'engagement politique. Alors, c'est une polémique qui a deux grandes directions, si vous voulez. L'une, c'est une direction, je dirais, qui consiste à mettre en garde contre un idéal du sage, comme celui qui se retirerait de l'action politique pour se consacrer à l'étude, quitte à revenir dans l'action lorsque la nécessité s'en fait vraiment sentir. Et Cicéron souligne dans un des textes que j'ai distribué là, ce qui lui paraît le paradoxe fondamental, c'est dans le De Republica 1.10.11, ce qui lui paraît le paradoxe fondamental, à savoir que celui qui ne s'est pas formé est à l'action, et surtout celui qui n'a pas acquis la position dans la cité qui lui permet de mettre en œuvre sa vertu de prudentia, est bien incapable de sauver la cité s'il y a une période de crise. Et puis, ça c'est un des aspects, si vous voulez. Et l'autre aspect, c'est une polémique très accentuée contre les épicuriens, qui sont une forme extrême pour Cicéron de ce désir de retraite dans le Notium, cette fois-ci un Notium qui n'est plus dédié à l'étude, mais qui est dédié au plaisir et naturellement d'autant plus condamné. Et je finirai simplement sur les deux textes, si vous voulez. L'idéal du slogan Otium cum dignitate dans le Processtium, qui est un slogan très complexe, puisque on a à la fois l'idée de la nécessité de concilier la paix civile, Otium, et la dignité de la République, la dignité de l'État et de ses membres, ce qui doit entraîner en même temps quelque chose qui tient compte de cette séparation que Cicéron reconnaît malgré tout entre les optimates au sens le plus large et puis les principaux représentants des optimates, entre ceux qui doivent leur donner leur adhésion simplement et ceux qui doivent être à la tête de l'action politique. Ceux qui doivent être à l'action politique ont le devoir de ne pas mettre en cause la paix civile par désir de préserver leur dignité. C'est-à-dire là, il faut calmer le désir de dignité au profit de l'otium. Et ceux qui doivent donner leur appui aux dirigeants ont la nécessité de ne pas vouloir préserver leur otium aux dépens d'une dignité qui est à la fois celle des dirigeants et celle de la République en général. Et, dit Cicéron, dans le Processtium, ils risquent fort, en voulant conserver leur otium, et en sacrifiant la dignité, de perdre à la fois la dignité et l'otium. Et, dernier point, qui a déjà été évoqué, pour celui qui se livre totalement à l'action politique, qui n'est donc plus le citoyen en général, mais qui est l'optimus civis, le recteur publicae, il faut aller naturellement jusqu'au risque de la mort. Et à ce moment-là, le texte fondamental qui est la réponse de Cicéron, c'est le songe de Scipion dans le De Republica, qui est donc la fin du De Republica qui en est la clé. C'est-à-dire qu'il y avait un idéal qui était celui de l'éternité de la République, idéal de Cicéron sent bien à ce moment-là, les années 50, qu'il est extrêmement menacé. Et il reste quelque chose qui est la promesse de l'immortalité pour le recteur, pour le citoyen idéal, pour l'homme politique, avec ce grand rêve où Scipion Émilien retrouve son grand-père adoptif, l'Africain, et son père, par la nature, Paul Émile, et découvre que la divinité a réservé l'immortalité astrale à ceux qui ont défendu les républiques, leur république, au point de risquer leur vie. Voilà les grands thèmes, si vous voulez, de ces traités cicéroniens qui n'ont pas l'originalité, bien sûr, des textes d'Aristote, mais qui ont quand même joué un rôle non négligeable dans l'histoire et la transmission de la pensée politique antique. Je vous remercie.